Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur Le Nouveau Chemin. On est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission est jouée tous les jours grâce à une troupe d'acteurs philosophes hors pair. Géraldine Mosna-Savoie, Geneviève Méric, Pauline Darvet, Tristan Grenassia et Walter Galvani. Elle goûte aux émois de la starification grâce à Lady Mydia Portis-Guérin-Monroe. À la réalisation cette semaine, avec aujourd'hui à la prise de son juste, Élise Leu. Après la dernière prise, les lumières se rallumeront pour accueillir François Nudelmann pour son journal de la philosophie. Son invité aujourd'hui sera David Bannon à propos de son livre « L'attente messianique » paru aux éditions du Cerf. De plus merveilleux que de voir un homme dans l'une de ses activités quotidiennes les plus simples lorsqu'il croit ne pas être observé.
You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to?
Imaginons un théâtre, le rideau se lève et nous voyons un homme seul dans sa chambre, allant et venant, allumant une cigarette, s'asseyant, de telle sorte que l'on voit soudainement un homme du dehors, comme nous ne pouvons jamais nous voir nous-mêmes. Ce serait plus magnifique encore que tout ce qu'un poète peut faire jouer ou faire dire sur la scène. C'est la vie même que nous verrions. C'est ce que nous voyons tous les jours, sans que cela nous fasse la moindre impression. C'est une question de perspective. Seul l'artiste peut nous représenter le détail singulier de telle sorte qu'il nous apparaisse comme une œuvre d'art. C'est l'œuvre d'art qui nous contraint à la bonne perspective. Mais comment créer à partir de soi? Comment mettre son corps et ses pensées au service d'un autre que moi? Un autre fictif, un personnage, mais qui est bien plus réel ou tout aussi fictif que moi-même. Incarner un personnage, lui prêter corps et voix, c'est ce que nous faisons tous, y compris et surtout lorsque nous cherchons à être naturels. Mais sur scène, cela s'apprend. Conseils, techniques, trucs et astuces pour savoir exister, non plus en tant que personne, mais en tant que personnage, dont l'existence virtuelle est la seule qui importe, la seule que l'on doit donner à voir. Mais comment apprendre à jouer un rôle? Comment apprendre à montrer ce que l'on ressent, à amadouer la caméra pour exprimer visuellement ce que la parole ne suffirait à dire? Combien d'âmes un acteur doit-il avoir? Après la lettre d'Alembert et le paradoxe du comédien hier, c'est-à-dire après les deux conceptions du théâtre au XVIIIe siècle, dont Rousseau et Diderot sont les porte-paroles, changement de décor aujourd'hui et direction New York. Décembre 1947, pour la première représentation d'un tramway nommé Désir. Dans le rôle principal, un acteur alors inconnu, qui va bouleverser les codes reconnus de l'interprétation dramatique. Sa manière d'exhiber son dos au travers d'un maillot de corps déchiré, ses poses déhanchées, au pelvis poussé vers l'avant, sa mouvance élastique, lente, la main qui vient gratter le dos en signe de nervosité, et ce cri nasal, aigu, qui hurle Stella dans un moment de détresse. Le prototype de l'acteur moderne est né.
Deliberate cruelty is not forgivable. It is the one unforgivable thing in my opinion and the one thing of which I have never, never been guilty. So I said to him, thank you. It was foolish of me to think that we could ever adapt ourselves to each other. Our ways of life are too different. Our backgrounds are incompatible. So farewell, my friend, and let there be no hard feelings.
Was this before or after you got the telegram?
Oh,
As a matter of fact, my wire...
As a matter of fact, there wasn't no wire at all. And there isn't no millionaire. I missed him coming here with roses because I know where he is. And there isn't a thing but imagination and lies and deceit and tricks. And look at yourself. Take a look at yourself here in a worn-out Mardi Gras outfit. Running for 50 cents or some rag pig with a crazy crown on. And what kind of a queen do you think you are? You know that I've been on to you from the start, and not once did you pull the wool over this boy's eyes. You come in here, and you sprinkle a place with powder, and you spray perfume, and you stick a paper lantern over the light bulb, and lo and behold, the place is turning to Egypt, and you are the queen of the Nile, sitting on your throne, swilling down my liquor, and you know what I say? Ha-ha!
Bonjour Hélène Valmarie.
Bonjour.
Vous êtes enseignante en études cinématographiques à Paris 3, Paris 7 et Nanterre. Nanterre, où vous donnez également un cours sur l'analyse du jeu de l'acteur. Et c'est donc avec vous que nous allons parler aujourd'hui du jeu du comédien et de l'acteur, donc du théâtre au cinéma. On vient d'entendre un extrait d'Un tramway nommé Désir, alors non pas la pièce de théâtre évidemment de 47 dont je parlais, mais le film qui date de 51, où on y retrouve, cela dit, le même acteur dont je parlais, Marlon Brando, avec cette diction si particulière qu'on a entendue dans l'extrait. D'ailleurs, il est frappant de voir le contraste qu'il y a entre Vivian Leigh qui parle avec un accent très presque poche, entre les dents, avec un langage assez soutenu, et Marlon Brando qui arrive ensuite, l'homme viril dans toute sa splendeur, et qui énonce son discours de manière très étrange. On a l'impression qu'il n'articule pas vraiment ses mots, et il crée, avec cette façon de parler, une nouvelle façon de jouer, littéralement.
Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas oublier non plus que d'autres gens ont marmonné avant Brando, qu'on écoutait en début d'émission Taxi Driver, et donc cette scène devant le miroir qui rappelle les exercices de Strasberg, dont on reparlera, et ça me faisait penser à Gabin dans Le Jour se lève, où effectivement on a cette scène au début où il est tout seul dans sa chambre, qu'il arpente et il se retrouve à se regarder dans la glace et à se marmonner à lui-même qu'est-ce qu'il est en train de devenir. Donc c'est pas non, il y a quand même des choses qui étaient déjà là avant Brando, mais il a cristallisé un certain nombre d'éléments. Ce qui est intéressant dans le tramway, c'est effectivement le contraste avec Vivian Leigh, qui est donc une actrice anglaise, qui était diplômée de l'Académie royale d'art dramatique, qui était la compagne de Laurence Olivier, qui a joué abondamment Shakespeare, de Ophélie à Lady Macbeth, et qui donc là, voilà, oppose aussi pas seulement son personnage, mais un style de jeu où les deux en même temps à Brando, et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver à maintes reprises dans les films avec des acteurs du studio. Je pense par exemple à James Dean dans À l'Est d'Éden, qui est opposé à Raymond Macy qui joue son père et qui est un acteur plutôt de style classique. Et on va retrouver là à la fois un style de jeu, aussi une manière de se tenir, hein, qui est vraiment droite, complètement opposée à ce que vont proposer les acteurs du studio, c'est-à-dire des positions complètement improbables, voilà, les corps qui sont par terre, qui se vautre là où voilà, l'acteur classique se tient droit, quelle
que
soit la
circonstance. Mais alors ça, c'est assez fascinant de penser ça, cette évolution du jeu de l'acteur. Quelles sont les causes qui ont fait qu'à un moment donné, les acteurs n'ont plus joué de la même façon? Et c'est en ce sens que cette émission aujourd'hui porte à la fois sur l'acteur studio, et Stanislavski, puisque Stanislavski est celui donc, qui a fondé le théâtre russe,
le théâtre d'art de Moscou,
ouais. Qui, en arrivant à New York, va ouvrir une forme d'école, en tout cas instaurer un nouveau style de jeu qui va donner suite qui va donner lieu à l'acteur studio, en instaurant donc une nouvelle manière de diriger les comédiens, une nouvelle manière de leur apprendre à jouer, à incarner les personnages.
Oui, alors l'histoire de tout ça. Donc Stanislavski, c'est un metteur en scène du théâtre russe dont les questionnements étaient autour de comment être vrai sur scène, comment être naturel, et ça devait passer par trouver le lien, trouver une espèce d'harmonie psychophysique, trouver le lien entre l'intérieur et l'extérieur et comment s'articuler les deux. Alors il n'était pas tout seul dans cette réflexion. À la même époque, il y avait le metteur en scène Meyerhold qui lui aussi était persuadé de ce lien et qu'il y avait quelque chose à trouver dans le jeu de l'acteur autour de cela. Eux n'étaient pas d'accord l'un et l'autre sur si vous voulez, Meyerhold pensait un peu dans la lignée des écoles de psychologie objective américaines que la réaction venait avant l'émotion, si vous voulez. Les écoles de psychologie américaines, par exemple, de William James. William James disait « J'ai vu un ours, j'ai couru, j'ai eu peur ». C'est-à-dire que la réaction physique vient en amont et c'est parce que mon corps a fait quelque chose que du coup je comprends que j'ai été perturbée par cela. Donc en gros, le schéma pour Meyerhold, ce serait sensation, réaction, émotion. Pour Stanislavski, le schéma, ce serait sensation, émotion, réaction. Donc ils vont s'opposer là-dessus. Et donc le travail de Stanislavski à partir de là va être de comment retrouver l'émotion et du coup retrouver la réaction du corps qui va en émaner. Là aussi, il n'est pas le premier. Hein, je crois que c'est l'acteur français Larive qui avait écrit des cours de déclamation au début du 19e siècle, dans lesquels il disait... quand le corps a ressenti une émotion, il en garde la mémoire. Et il suffit de réactiver ce souvenir pour que les muscles qui ont été suscités à ce moment-là soient réactivés. Donc il faut, ça va être toute la question de la mémoire affective sur laquelle, qui va poser débat à l'acteur studio, sur l'importance qu'elle doit avoir. Et donc retrouver le souvenir de cette émotion pour retrouver les gestes qui vont en émaner. Donc voilà, on a toutes ces réflexions de Stanislavski, hein, sur donc ce lien entre le physique et les émotions intérieures. Ce qui va se passer concrètement, c'est que au début des années 20, le théâtre d'art de Moscou fait une tournée en Europe puis aux États-Unis et que des membres de la troupe vont rester aux États-Unis, Richard Boleslavski et Maria Openskaya restent aux États-Unis pour diffuser l'enseignement de Stanislavski. Boleslavski notamment va ouvrir ce qui s'appelle l'American Laboratory, qu'on appelle le lab, donc le laboratoire, je crois que c'est en 1923, où il aura notamment comme élèves Lee Strasberg, Harold Kurman ou Stella Adler, qui seront ensuite des enseignants de ce qu'on appelle la méthode, donc qui est en gros l'adaptation du système de Stanislavski aux États-Unis, même s'il y a plusieurs méthodes, et même si le terme méthode énerve...
Ne lui convenait pas, hein, d'ailleurs, lui-même, hein, parce oui. qu'il me semble que Stanislavski lui-même essaie de montrer que ce qu'il enseigne n'est pas un donné immuable qu'il faudra apprendre par cœur. Au contraire, tout doit être amené à être dépassé en permanence.
Tout à fait, et c'est ce qui va notamment poser problème, c'est-à-dire que dans un premier temps, Stanislavski va mettre en avant le travail d'abord sur l'intérieur pour ensuite extérioriser. Et puis dans les années 30, au début des années 30, il va plutôt mettre en avant ce qui s'appellera la lignée des actions physiques, donc et qui correspond à son deuxième ouvrage.
Voilà, c'est ça, il y a deux ouvrages. Hein. D'abord la construction du personnage.
Non, la formation de l'acteur.
La formation de l'acteur, pardon, où il insiste sur l'intériorité que doit oui, atteindre l'acteur en tant que tel. Et ensuite la construction du personnage, où là il insiste plus sur l'exercice physique et les manifestations extérieures du personnage.
Tout à fait, la construction du personnage, c'est des chapitres qui s'appellent le costume, le corps expressif, hein, vraiment. Stanislavski, alors effectivement, donc Stanislavski, a priori, avait comme ambition 7 volumes de théorie sur l'acteur. Aujourd'hui, on a donc de son vivant a été publié La formation de l'acteur, donc d'abord en Russie, traduit en anglais, puis traduit en français. La construction du personnage, c'est quelque chose qui a été publié après sa mort, donc en 1938, qui est un assemblage de notes qu'il avait pu. Laisser. Et on a un autre ouvrage qui est un ouvrage autobiographique qui s'appelle Ma vie dans l'art et qui a été qu'il a fait pour des raisons financières, parce que son fils souffrait de tuberculose et il avait besoin d'argent pour financer les soins, et donc il avait accepté l'avance d'un éditeur américain pour l'écriture de cette autobiographie. Voilà, l'édition américaine ne lui a pas plu, donc il a réécrit une édition en Russie qui était plus celle à laquelle il voulait arriver. Et effectivement, sur cette question parce qu'on parle du système Stanislavski, sur cette question d'évolution, Stanislavski, effectivement, a toujours un peu lutté contre ce terme-là. Et un des problèmes dans la réception de ces écrits qu'on a, c'est justement le fait que ce n'est pas lui qui les a, d'abord, qui les a nécessairement laissés et construits comme cela. Et puis... et puis aussi le fait qu'il y ait des mouvances comme ça, qu'on ait d'abord eu donc cette primeur des actions intérieures et puis ensuite des actions physiques, et c'est ce qui a provoqué des dissensions donc puisqu'après le lab il y a eu la création du groupe Theater dans les années 30 et donc avec Harold Klurman, Lee Strasberg et Cheryl Crawford. Et Stella Adler a rencontré Stanislavski à ce moment-là, au début des années 30, et est revenue de Russie avec cette nouvelle idée de la primeur des actions physiques. Et Strasberg, qui était un fan inconditionnel de la mémoire affective, a posé problème là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont divisés et que le groupe s'est petit à petit dissolu et qu'un peu plus tard est né l'Acteur Studio.
Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous comprenez un personnage de roman, un personnage qui existe déjà dans l'esprit de quelques-uns, tout de même, des spectateurs?
Oui. C'est-à-dire que je ne comprends pas le personnage qui existe dans l'esprit de ces quelques-uns, mais celui qui existe dans le mien, depuis que j'ai lu les romans dans lesquels ces personnages évoluent. C'est donc l'idée que je me suis inconsciemment fait de ces personnages qui me dirigent dans l'interprétation.
Et quand vous interprétez, est-ce que vous avez l'impression d'une création valable, d'une interprétation ou d'une adaptation?
Je viens de vous parler d'inconscient et j'y reviens. Je crois qu'on comprend un personnage d'une façon plus ou moins valable, mais malgré soi. On ne crée pas un personnage de roman, on le voit d'après le romancier qui vous l'a imposé. D'ailleurs, le créateur est plutôt l'auteur du film, qui est aussi bien le metteur en scène que le scénariste, et même les deux, lesquels voient toute l'atmosphère du film. L'acteur, quoi qu'il en dise, ne voit jamais que son personnage. J'estime que l'objet personnage sur lequel je travaille en tant qu'acteur est pour moi ce qu'est une table pour le menuisier qui vient de la faire avec amour.
Notre création est la conception et la naissance d'un être nouveau, le personnage. C'est un processus naturel, semblable à la naissance d'un être humain. Si vous suivez tout ce qui se passe dans l'âme de l'acteur, pendant la période où il vit véritablement dans son rôle, vous comprendrez la justesse de ma comparaison. Toute image dramatique et artistique créée sur la scène est unique et ne peut se répéter, tout comme dans la nature. Comme chez les êtres humains, on constate un stade embryonnaire. Le père du personnage est l'auteur de la pièce, et sa mère, l'acteur en qui le rôle est en gestation. Pendant le premier acte, l'acteur prend connaissance de son texte, puis ils deviennent plus intimes, se disputent, se réconcilient. En fin de cette alliance naît le personnage. Le metteur en scène facilite cette rencontre. L'acteur est alors sous l'influence de son rôle, qui affecte toute sa vie. Cette période de gestation du rôle est au moins aussi longue que pour un être humain, souvent même beaucoup plus longue. En analysant ce processus, vous découvrirez que les lois précises régissent la nature organique, qu'il s'agisse d'un phénomène biologique ou simplement imaginaire. Vous ne pouvez vous égarer si vous comprenez cette vérité et si vous avez confiance en la nature. N'essayez pas d'imaginer de nouveaux principes, de nouvelles bases ou un art nouveau. Les lois de la nature sont universelles. Rien ne peut y échapper. Et malheur à ceux qui les enfreignent. Just a little bit harder, so I can love, love, love him until myself. Well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care.
Hélène Valmarie, il est quand même étonnant d'entendre Stanislavski, on vient d'entendre un texte là issu de son ouvrage La formation de l'acteur, interprété par la comédienne Anne Brissier, insister sur le caractère naturaliste en fait du travail de l'acteur, puisqu'il dit que le personnage, se construire un personnage est un processus naturel, semblable à la naissance d'un être humain, écrit-il. Il dit que les lois de la nature sont universelles, et donc il suffit de se référer à ces lois de la nature pour pouvoir construire son personnage, alors que d'un autre côté, il a quand même énormément travaillé et écrit, on l'a dit, ou en tout cas voulu écrire, sur le travail de l'acteur, que c'est un véritable travail, il n'est pas spontané tout d'un coup de pouvoir incarner un rôle autre que le nôtre. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre d'un côté cette vision naturaliste et de l'autre l'insistance sur un travail acharné?
Alors effectivement, peut-être ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le naturel, ça se travaille. Le naturel, c'est pas juste faire comme on fait chez soi, ça se travaille et c'est pas quelque chose de simple. Et toutes ces réflexions, c'est mène finalement. Enfin, je pense que Kazan aurait été très en colère contre les propos de Gérard Philippe.
Alors, et Gérard Philippe, on a entendu juste avant d'entendre le
oui,
texte.
Oui, hein, oui, fin, oui, et parce que pour Kazan, justement, ce qu'amène l'acteur studio, c'est considérer l'acteur, donner à l'acteur la place qu'il a et à l'égal du metteur en scène. C'est-à-dire que l'acteur, l'idée, c'est que l'acteur n'est pas un imitateur. Il ne s'agit pas d'imiter la nature ou ce qu'on croit être la nature, mais l'acteur doit la créer aussi. Effectivement, assez compliqué. Par exemple, dans la construction du personnage, donc Stanislavski qui parle à travers un tiers personnage qui est le directeur du théâtre qui s'appelle Torstov, explique que pour jouer un vieillard, donc il demande à ses élèves de jouer et puis ensuite ils font un point sur ce qui s'est passé. Et donc pour jouer un vieillard, il ne suffit pas de marcher voûté ou de s'en faire semblant d'avoir une canne. Il faut savoir pourquoi. Quand on est vieux, quand on vieillit, on fait les choses plus lentement parce que les articulations, elles s'usent. Et donc, il faut comprendre tout ce processus biologique. Il faut savoir pourquoi c'est comme ça l'intérieur du corps pour pouvoir travailler le personnage. D'une autre manière... sur cette question de ne pas imiter, de trouver et sortir des conventions à la fois pour Stanislavski du théâtre, mais pour les membres du studio qui iront au cinéma, du cinéma. Quelqu'un comme l'acteur Rod Steiger qui raconte que quand il a préparé son personnage de Napoléon pour le film Waterloo, donc il date de 70 je crois, il dit... Napoléon, c'est facile, hein. On met un chapeau et puis on met sa main sous sa veste et voilà, ça c'est Napoléon. Non, moi je voulais pas de ce cliché-là. Alors pour trouver comment jouer Napoléon, j'ai demandé à ce qu'on me traduise les rapports d'autopsie de Napoléon. Et là j'ai découvert toutes les maladies dont il souffrait. Et à partir de là, j'ai eu les clés de mon interprétation du personnage parce que je savais quelque chose de cette intimité physique du personnage. J'ai pu le construire autrement que dans le cliché simplement le cliché extérieur que l'on a du personnage, puisque Stanislavski disait voilà, toute action physique doit être justifiée psychologiquement. C'était vraiment ça ce qui était important, et toute action physique qui n'est pas justifiée est conventionnelle et ne produira absolument rien.
Oui, ce qui montre que jouer de manière naturelle, comme le demande Stanislavski, n'est pas spontané, nécessite un travail, vous l'avez dit, il faut créer la nature. Mais ce qui fait du coup du comédien ou de l'acteur un créateur à part entière et pas simplement un interprète, et ça il me semble que c'est assez important.
Tout à fait.
Je ne sais pas si c'est à partir de Stanislavski qu'on peut penser le comédien comme étant créateur, quelqu'un qui n'imite plus et qui ne fait pas qu'obéir, mais qui propose et qui construit vraiment un personnage qui le préexiste, mais auquel il prête sa voix, son corps, ce qui crée une forme de... Ça, c'est quand même un statut particulier. Le personnage qu'interprète un comédien, à la fois préexiste au comédien et en même temps n'existe qu'à travers son interprétation. On a là une forme de dédoublement de la personne, ou plutôt une distinction entre la personne du comédien, le personnage qu'il joue, et même, dans le cas de l'acteur studio, la star qu'il va devenir.
Oui, c'est vrai que l'acteur studio a aussi fait des comédiens, de ce qu'on appelait des characters, des comédiens qui jouaient des rôles de composition, des stars, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais oui, l'acteur est un auteur, même plus qu'un créateur. L'acteur est un véritable auteur. C'est ce que tout un tas de gens pensent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une distinction à faire ici entre un comédien de théâtre et un acteur de cinéma, puisque dans le cas d'acteur studio, puisque beaucoup des acteurs qui ont joué au studio sont devenus des stars, quand même le système de starification existe au cinéma plus qu'au théâtre. Dans le cas d'un acteur de cinéma, parfois l'acteur lui-même est plus présent que le personnage, on voit De Niro, on voit Marlon Brando plus que le personnage qu'il interprète, alors qu'au théâtre c'est le personnage qui prime plus que le comédien lui-même puisqu'il n'a pas ce phénomène de starification. On peut peut-être distinguer les choses ainsi.
Oui, ou parler d'identification, en tout cas oui, mais peut-être que tout ça c'est dû au fait que les films on les revoit aussi et que du coup il y a quelque chose qui s'imprègne. Mais oui, quand on étudie l'acteur de cinéma, il y a cette notion de persona qui est très très importante et qui dit finalement et c'est un peu ce qu'on avait dans le texte de Stanislavski, la fin de ce texte, sur l'idée que quand il dit je crois que ce rôle il le garde toute sa vie, et effectivement quand un acteur vient dans Quand Brando vient dans Sur les quais, c'est le personnage de Terry Malloy, mais c'est aussi le personnage du tramway. Il est comme ça, il est l'auteur d'un voilà d'espèce de d'entité qui est le personnage qu'il va être au long de toute son œuvre. Et ça, c'est sa persona, cette espèce de voilà de créature qu'il est et qui se construit avec lui, mais aussi par-delà lui. Enfin, il y a quand même des choses inconsciemment qui se passent et qu'on est là pour venir faire émerger. Mais oui, il y a quelque chose de très fort dans le avec le cinéma qui est ça, cette espèce de persistance d'une image passée qui vient se superposer et comme une espèce de palimpseste, voilà, on réécrit mais sur, à la fois sur soi et sur un autre qu'on a déjà
Mais ce qui est fou, c'est que c'est ce phénomène-là de starification qui fait donc que chaque acteur traîne avec lui tout un passé imaginaire et fictif des rôles qu'il a pu incarner avant, n'empêche pas le phénomène de l'identification et donc du coup un jeu que Stanislavski jugerait comme étant de qualité, c'est-à-dire qu'il peut quand même incarner un personnage de manière juste et réelle tout en renvoyant dans la tête du spectateur à des films qui ne sont pas celui qu'il est en train de regarder. Vous voyez, c'est ça qui est fou, c'est que finalement, ce phénomène de starification ne fait pas écran à la qualité du jeu de l'acteur qui incarne un personnage à un moment donné dans un film donné.
Oui. Oui, tout à fait. Après, il y a quand même, il y a des limites, justement, peut-être dues à ce fait de starification. Il y a, enfin, les limites d'acteur studio, c'est quand même tout ce semble de tics qu'après voilà que des acteurs justement stars vont utiliser et réutiliser. Quand on voit dans certains films aujourd'hui des gens comme Pacino ou De Niro, on voit bien que voilà il y a quelque chose qui est du l'ordre de la répétition et qu'ils sont pas en train de reconstruire, donc il y a des limites qui ont été vues et formulées. Mais après tous les acteurs du studio non plus ne sont pas des stars, notamment voilà les actrices du studio par exemple. On les connaît moins, voire on les connaît pas. Elles ont été souvent des simples partenaires des acteurs masculins. C'est Kim Hunter dans le tramway par exemple. Et voilà, pour dire que il y a pas non plus que des stars au studio. Mais les stars sont essentiellement masculines en plus.
Voilà, et elles sont essentiellement masculines. Mais ça permet d'aborder la question quand même des codes de jeu, puisqu'on parle de la méthode avec un grand M, de la façon dont Stanislavski a théorisé le travail du comédien. Puis la façon dont ça a pu être repris ensuite par l'acteur studio, proposer un tel code du jeu du comédien, est-ce que ça n'a pas aussi pour danger de peut-être de fermer, de tracer des contours tellement clairs à ce que doit être le jeu du comédien que du coup ça entraîne une forme d'absence de liberté d'improvisation? Comment est-ce qu'on peut tenir les deux, d'un côté codifier le travail, de l'autre dire au comédien mais non, tu dois être auteur de toi-même, auteur de ton personnage?
Alors, d'abord, rappeler que le l'acteur studio, c'est un laboratoire, c'est un lieu de répétition de travail, mais que tout ce que dit Stanislavski ou même sur certains points Strasberg, ce sont des choses qui sont censées être là pour stimuler l'état de créativité de l'acteur. C'est-à-dire qu'une des raisons pour lesquelles Stanislavski a réfléchi à ces exercices, à ces méthodes, c'était de comment faire pour l'acteur qui, un jour sur scène, voilà, à un moment, il y a quelque chose qui se passe, et comment retrouver ça le lendemain, et le jour d'après, et le jour d'après. Donc comment retrouver cet état de créativité, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles cette méthode a pu intéresser le cinéma, c'est-à-dire que le cinéma qui a pour spécificité dans le tournage de fragmenter, de découper, donc de ne pas se dérouler chronologiquement, voilà, comment quand je joue à une partie d'une scène à un moment et une partie qui est en amont à un autre, comment je retrouve l'état de comment je retrouve l'état de mon personnage. Donc vraiment ça c'est important, cette idée que c'est un ensemble d'exercices, mais pas de choses qu'on doit retrououver telles quelles sur scène, même si il y a des, c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, il y a des choses qui relèvent de l'exercice pour Stanislavski ou Strasberg qu'on va retrouver dans les films. L'exercice par exemple de l'animal qui est un exercice pour justement trouver d'autres manières physiques d'incarner et pas juste arriver sur scène de dire bon bah Hamlet c'est un homme, je suis un homme, donc voilà je suis non, et si Hamlet était un chien, voilà comment, et du coup trouver d'autres manières physiques de d'incarner le personnage. On va le retrouver dans des films, on va trouver James Dean qui meugle dans je crois que c'est dans La Fureur de Vivre, ou Brando qui fait le chat dans à un moment donné dans donc il y a quand même des choses de ces exercices qu'on va retrouver qu'on va retrouver sur scène, ou l'exercice des moments privés auxquels finalement correspondent les extraits de Taxi Driver, l'extrait de Taxi Driver qui est un exercice de répétition pour libérer des comédiens qu'on va retrouver, voilà, surtout dans des moments où l'acteur est face à un miroir à l'écran, où on va le retrouver quasiment dans un exercice de répétition qu'il a pu exercer en amont.
Mais alors vous insistez beaucoup sur la dimension de l'exercice et du travail, et pourtant il y a une autre dimension qui est très présente dans les textes de Stanislavski, c'est celle de l'inconscient. Il cite à de nombreuses reprises le subconscient ou l'inconscient, ça dépend des moments, comme pour dire qu'il y a une part du travail de l'acteur qui lui échappe. Il doit admettre et accepter qu'il ne peut pas avoir un contrôle total sur le personnage qu'il va créer, mais qu'il faut quand même se rendre disponible à cet inconscient, sur lequel on n'a aucun contrôle, pour le laisser émerger. Et là, on voit un lecteur de Freud, hein, sans doute derrière, qui essaie de montrer que le sujet humain, et donc le personnage que l'on va interpréter, est beaucoup plus complexe que ce que les descriptions peuvent donner à en lire ou à en entendre, et qu'il faut du coup essayer de recréer un individu, un personnage, dans sa complexité, c'est-à-dire également en prenant en compte une dimension inconsciente du personnage.
Oui, tout à fait. Et, en fait, les exercices de Stanislavski sont là pour essayer de contrôler l'inconscient. C'est-à-dire, il le dit bien, je crois que c'est les premiers exemples dans la formation de l'acteur, où un étudiant s'entraîne chez lui à jouer Othello, et puis il le joue sur scène. Et à un moment, il est dépassé par son jeu. Il y a quelque chose qui se passe, les spectateurs le ressentent. Et donc, quand Stanislavski fait le point avec cet étudiant, voilà, il lui dit bien, oui, il y a quelque chose qui s'est passé là de l'inconscient. Moi, ce que je vais vous apprendre, c'est à maîtriser ça, c'est à contrôler ça. Mais effectivement, vous évoquez Freud. Je pense que une des raisons qui font que le système que Stanislavski a pu rencontrer le cinéma, c'est ça, et c'est aussi parce que il y a eu un type de personnage qui a correspondu à un type de jeu, ou à un type de, enfin je veux dire, les acteurs de l'acteur studio, ils jouent Tennessee Williams, ils jouent William Inge, ils jouent des personnages ambigus, des personnages torturés, des personnages qui arrivent justement pas à formuler des choses. Donc il y a quand même un lien entre la méthode de jeu et ce qu'elle permet ce qu'elle permet d'incarner. Peut-être que probablement que les méthodes du studio ne permettent pas d'incarner tous les personnages. Et puis effectivement sur cet inconscient, avec ce qui vient être dit avec cette méthode, c'est que ce qui est important dans le jeu de l'acteur, c'est ce qui est pas dit, hein, alors qu'avant, voilà, tout ça passait essentiellement par le dialogue, là voilà, c'est le non dit qui est important, et c'est ce qu'on peut comprendre des ces gestes qui semblent naturels qui vient véritablement raconter le personnage plus que propos.
Une des grandes difficultés durant le tournage d'un film est de savoir discerner quelles sont les économies qui vous épargnent des dépenses et quelles sont celles qui vous ruinent. Donner 1 million par jour, pour un jour, à telle vedette considérable, économie. Engager pour un rôle bref un comédien mauvais, payé très bon marché, folie. Folie parce qu'il faudra tourner 8 ou 10 fois la scène. Folie parce qu'il faudra finalement le remplacer par un bon comédien qui n'entrera pas dans le costume. Folie parce que rien n'est plus coûteux que la pellicule, sinon le temps et sinon la santé. Or, un mauvais acteur, pour peu qu'on soit patient, peut très bien vous donner une crise de nerfs et vous faire perdre 1 million.
At least 25 for you, Purse, all right? Purse!
No, you fellas take it. I just came along for the ride anyway.
Crazy. They're all crazy. You try not to believe it because you need them. She's crazy.
Hello.
We're off again.
No, sorry, not tonight.
She's languished.
Shh, quiet.
Bill, Bobby, Bruce.
No, it's just that I'm supine.
That's a weight.
Who knows?
Physically, I'm in pretty good shape.
See? She did say it again.
But mentally, I'm comatose.
Quick boy, the dictionary.
You know you're the only one I love.
New fish, same hook.
Bye now.
Bye now.
She won't get up. She won't go out. Baby, what's it all about?
Why, why?
Well, in simple English, I'm lazy. I wanna be lazy. I long to be out in the sun with no work to be done under that awning.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance où nous parlons des comédiens, des acteurs toute cette semaine, le jeu du théâtre, le jeu du cinéma et aujourd'hui plus particulièrement de Stanislavski à l'Actor Studio, la méthode du comédien en compagnie d'Hélène Valmary, enseignante en études cinématographiques.
Counting sheep till I sleep like a child.
Si on revient à la question de la distinction entre la personne du comédien ou la personnalité du comédien, disons, le personnage qu'il doit incarner, peut-être cette aura qui le dépasse et qui est le propre de la starification, même si tous les acteurs ne sont pas des stars, loin de là, ça pose quand même la question de savoir qui joue, ou plutôt quelle dimension de cet ensemble entre la personne, le personnage, l'individu prime à un moment donné. Là, on a entendu un extrait de Marilyn Monroe dans Les Misfits, Les Désaxés, où là, on a le personnage, en tout cas dans l'extrait qu'on a entendu, un personnage féminin qui est littéralement hystérique. Tout ce que l'homme peut en dire, c'est « she's crazy », elle est folle, elle est maboule, bon voilà. Donc, ce qui est considérablement réducteur hein, comme vision de la femme au sein de ce film, et donc au sein d'ailleurs de beaucoup de films. Mais la question du coup qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui reste du personnage quand il est autant limité dans son expansion, qui correspond à de tels clichés, et que du coup, la personne qui l'incarne va elle aussi être limitée. Donc, où se situe ensuite la substance même de l'individu, Hélène Valmary ?
Oui, bah c'est bien l'objet de l'analyse du jeu, effectivement, c'est de faire le tri dans tout ça, de film en film, quand on étudie le jeu, quand on analyse l'acteur, en tout cas au niveau du cinéma, on a la chance d'avoir les traces, de pouvoir revoir les films. Et c'est l'objet, c'est vraiment ça, c'est considérer effectivement l'acteur-personnage, personne comme un tout, et ensuite d'aller traquer de film en film ce qui reste. Et ce qui part, et du coup de tout ça va émerger le personnage acteur, c'est-à-dire l'acteur qui peut pas s'empêcher, qu'il y a des choses qui reviennent de film en film, consciemment ou pas, et puis c'est les choses qui sont là que pour le personnage et qui donc du coup raconteraient de manière plus spécifique le personnage. Mais c'est un travail fastidieux et long, mais c'est ça qui se passe autour vraiment de l'analyse du geste. Qu'est-ce qui persiste du geste d'un acteur de personnage en personnage et qui du coup finalement reviendrait à l'acteur, et qu'est-ce qui n'est là que pour un personnage et qui du coup revient finalement au personnage. Mais sur ce que vous disiez sur Marilyn, sur l'hystérie, oui, l'hystérie, c'est dans la série des clichés ou des tics du studio, les personnages féminins, les actrices du studio doivent jouer l'hystérie à un moment
le
donné.
Le studio, c'est Actor Studio.
De l'Actor Studio, oui, pardon. À un moment donné, doivent jouer l'hystérie. Après, il y a des choses intéressantes. On a des films comme ça où, je pense par exemple à Fade Away au début de Bonnie and Clyde, qui, au bout de 30 secondes, se tape la tête contre les barreaux, comme pour dire voilà, ça y est, j'ai fait ma scène d'hystérie. Maintenant, je vais où je crois que même au début de Alice n'est plus ici de Scorsese, Hélène Burstyn se tape la tête contre la vitre, et puis après on passe à autre chose, comme si il avait fallu passer par ce moment-là d'explosion. Mais en même temps, ce moment de burst out, d'explosion, il est attendu dans chez l'acteur, puisque justement il joue des personnages rentrés, ambigus, qui ont quelque chose qui ne sort pas. On attend ce moment aussi où ça va sortir. Alors Marilyn, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui a posé problème, puisqu'elle a été admise, normalement pour être admise à l'Actor Studio, on passe des auditions, Et Marilyn a été admise sans audition automatiquement par Strasberg, ce qui a fait quand même un petit peu jaser. Mais c'est quelqu'un avec qui elle a eu une relation très très proche, au point que c'est à lui qu'elle a légué tout ce qui lui restait à sa mort. Et sur les Misfits, sur les Désaxés, elle avait la compagne de Strasberg, Paula Strasberg, qui l'accompagnait. Et je voulais juste dire ce qui est intéressant sur Marilyn, c'est quand même quelqu'un qui, même dans ces films qui ne sont pas The Misfits, les Désaxés, qui voulaient sortir de cette image. Enfin, je pense à Les Hommes préfèrent les blondes, où elle se retrouve coincée, la moitié du corps coincée dans un hublot. Donc elle a la tête à l'extérieur, le reste à l'intérieur. Et il y a un petit garçon qui vient et qui, pour sauver la face devant un vieux monsieur qu'elle essaye de séduire, parce qu'évidemment elle veut séduire les hommes riches, met une couverture sous son cou et va incarner le bas de ce corps. Et il y a toujours quelque chose comme ça dans les films de Marilyn, d'un côté il y a le tronc, le tronc et la deuxième partie qui est pas forcément raccord. Donc comme pour dire, il y a cette image qui a l'air parfaite ou qu'on veut parfaite, il y a quelque chose. Il y a quelque chose quand même qui me contrarie. Et ce qui est intéressant dans les Désaxés, c'est le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Dans les Désaxés, vraiment, on voit Marilyn dehors. Et ça, Marilyn, elle est toujours, dans les autres films, elle est dans un ascenseur, elle est toujours enfermée quelque chose ou coincée dans un hublot. Et là, non. Et on rejoint, d'une certaine manière, cette idée d'intérieur et d'extérieur qui travaille Stanislavski, mais d'une autre manière. Mais là, elle est coincée toujours dans ses films, à l'intérieur de quelque chose. Elle est coincée aussi dans cette image qu'elle a dans l'image de star qu'elle a et avec elle veut aller dehors dans les Désaxés, c'est aussi sortir de son image. Enfin, il y a une espèce de lien assez beau dans ce film autour de cette question là.
Ce qui montre bien qu'on ne peut pas réfléchir à l'acteur indépendamment du film dans lequel il joue. C'est-à-dire que là, la discussion qu'on a depuis le début sur la technique de l'acteur, la méthode engendrée par Stanislavski, concerne l'acteur en tant que tel, son travail personnel, mais au final, le résultat de son travail s'inscrit dans un film, une manière de filmer. Les exemples que vous avez pris des scènes de Marilyn Monroe montrent bien qu'on est à la fois dans le côté naturel, créatif du comédien, et en même temps dans un registre qui est de l'ordre symbolique d'une lecture d'image qui fait que le comédien n'est pas pensable indépendamment du décor dans lequel il s'inscrit, de la manière dont il est filmé.
Oui, tout à fait. Mais par exemple, il y a des Brando, c'est quelqu'un qui induisait une mise en scène, je pense au début de L'homme à la peau de serpent, où on ne peut faire qu'un plan séquence qui se rapproche petit à petit de ce type qui marmonne sur sa guitare. Donc il y a quand même, il y a une manière de filmer qui allait aussi avec la façon de s'attarder sur ces acteurs.
Je regardais la campagne s'arrondir avec le jour. J'étais repu. Au-dessus de moi, un grenadier laissait pendre les boutons de ses fleurs, clos et côtelés comme de petits points fermés qui contiendraient tout l'espoir du printemps. Il y avait du romarin derrière moi et j'en percevais seulement le parfum d'alcool. Des collines s'encadraient entre les arbres et plus loin encore, un liseré de mer au-dessus duquel le ciel, comme une voile en panne, reposait de toute sa tendresse. J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle. C'est-à-dire, au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent. D'être entrés, en quelque sorte, dans un dessin fait à l'avance et qu'ils ont fait vivre d'un coup et battre avec leur propre cœur. C'était précisément cela que je ressentais. J'avais bien joué mon rôle. J'avais fait mon métier d'homme, et d'avoir connu la joie tout un long jour ne me semblait pas une réussite exceptionnelle, mais l'accomplissement ému d'une condition, qui en certaines circonstances nous fait un devoir d'être heureux. Nous retrouvons alors une solitude, mais cette fois dans la satisfaction.
Hélène Valmarie, lorsqu'on entend ce texte, donc c'est un texte des noces de Camus, hein, les noces à Tipaza, on entend ce texte où donc l'auteur Camus fait part de ce rôle que lui-même doit jouer dans sa vie. Là, il prend l'exemple d'un comédien, mais il montre que lui-même sent qu'il a un rôle à jouer dans sa vie, que chaque homme doit jouer un rôle. Il me semble que ça pose la question quand même de savoir que toute la réflexion autour de l'acteur, la façon dont il doit apprendre à être naturel, à prendre en compte le regard d'autrui, à se construire un personnage à travers sa personnalité, bah, quelle différence au fond avec ce qu'on essaie de faire tous les jours. C'est-à-dire à la fois de composer avec des codes qui nous sont imposés, essayer d'être le plus naturel possible, mais toujours en prenant en compte le regard d'autrui, en essayant d'être authentique sans forcément y arriver. Quelle différence ?
Pas énormément. Pas énormément. En fait, je pensais, quand vous me posiez la question, je pensais à un exercice de Stanislavski qui faisait monter une actrice sur scène et en lui disant, voilà, tu te vas sur scène et tu attends que le rideau tombe. Et l'actrice va sur scène et elle ne sait pas quoi faire. Voilà, elle ne sait pas quoi faire. Elle fait des choix. Elle ne sait pas si elle doit prendre en compte la scène, les gens qui sont sur scène, ou les ignorer. Et puis, donc, le rideau, au bout d'un moment, tombe. Et puis, Stanislavski donc, fait jouer l'ensemble, fait faire cette scène à l'ensemble de ses étudiants. Et puis il dit à la jeune fille qui a commencé l'exercice, « Maintenant, tu vas le faire avec moi. » Et donc, elle s'assied dans un fauteuil et Stanislavski est debout à côté. Voilà, et il tourne les pages d'un carnet. Et elle, au début, elle est très mal à l'aise, tout ça. Puis après, elle le regarde et puis elle attend. Elle attend qu'il lui donne une consigne, ou en tout cas, elle attend en le regardant. Et puis le rideau tombe. Et Stanislavski explique explique la différence entre les deux moments. Le premier moment, voilà, elle savait pas quoi faire. Alors voilà, il lui dit, ouais, vous avez montré Maria, vous avez montré vos jolis pieds, vous avez essayé de séduire le public parce que vous. Et le deuxième moment, vous n'avez rien fait, mais vous avez fait quelque chose. Vous n'avez rien fait, mais vous avez attendu. Et cette idée qu'il faut toujours qu'il y ait une action, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et ça peut être, voilà, juste, je ne fais rien physiquement, mais j'attends. Et du coup, le spectateur va ressentir. Donc, il y a quelque chose pour l'acteur à arriver à gérer, j'ai l'impression, autour de ce rapport avec le public, d'arriver à en faire abstraction, en même temps d'être conscient qu'il est là. Enfin, il y a c'est des choses qui ont interrogé, du coup, sur notamment quelqu'un comme Brecht, pour qui Stanislavski posait problème parce qu'il y avait trop de rapports d'identification entre l'acteur, le personnage et le public et le public et l'acteur.
Oui, la volonté à la fois d'être soi et d'être naturel, mais pour autrui, pour le regard d'autrui.
Voilà, tout à fait.
Ce qui est exactement là, pour le coup, ce que décrit Camus dans son texte.
Tout à fait. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'exercices essayent, notamment l'exercice de justement des moments privés dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui est un exercice inventé par Strasberg pour à partir de mots de Stanislavski, on va l'écouter.
Non, allez-y. Là, il nous reste quelques secondes, donc il faut juste conclure.
Mais juste, donc Stanislavski disait, il faudrait être sur scène comme on est dans le privé, et donc Strasberg, à partir de ça, elle s'est dit, mais oui, c'est ça, et donc il faut que j'arrive à ce que mes acteurs sur scène fassent des choses intimes, des choses que quand quelqu'un rentre chez eux, ils arrêtent de faire ou qu'ils veulent pas qu'on voit. Donc vraiment arriver à se déconnecter finalement de cet autrui et arriver à être comme si autrui n'était pas là pour que nous justement on voit ce quelque chose de l'humain que normalement on ne montre à personne.
Ce qui est très difficile quand on habite dans une grande ville comme New York.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. little town blues are melting away.
De New York City à Hollywood, des nouveaux chemins au journal de la philosophie. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance. Et c'est l'heure de retrouver François Nudelman pour son journal de la philosophie. Bonjour François.
Bonjour Adèle. L'attente d'un messie n'a pas été seulement un espoir religieux. Elle a aussi inspiré les utopies révolutionnaires. Mais que reste-t-il de cet espoir après le désastre des idéologies fondées sur l'idée d'un homme nouveau ? David Bannon reprend la question du messianisme dans son dernier livre « L'attente messianique, une infinie patience » paru au CERF. David Bannon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département des études hébraïques et juives de l'Université de Strasbourg et vous reprenez cette idée du messianisme dont on se demande ce qu'elle peut devenir aujourd'hui après, oui, les grandes utopies révolutionnaires.
Eh bien, ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une structure d'attente. C'est une attente fiévreuse, c'est une attente d'un événement qui ne peut pas être contenu dans le présent. C'est peut-être une attente de Dieu.
Bon, attente de Dieu, mais attente jamais réalisée, enfin jamais satisfaite.
En effet, attente qui ne se convertit jamais en détente, parce que chaque fois qu'elle se convertit en détente, eh bien, on pointe le faux messie.
Bon, alors, on lit bien votre sous-titre, « Une infinie patience ». Donc, ne pas être impatient, parce que être impatient, cela conduit à réaliser l'utopie et à faire valoir donc des faux messies.
Exactement, oui. À faire valoir des faux messies, parce que si on est impatient, alors on précipite la fin des temps et on veut réaliser ce qui est un événement absolu, alors que justement cet événement absolu ne peut pas être contenu dans le présent, il est toujours à venir, et l'événement qui se réalise, eh bien celui-là est détecté et montré comme un faux événement.
Bon, mais pour ne pas céder à la tentation de réaliser ce désir, il faudrait qu'à ce moment-là que l'attente soit intransitive. Or, on a quand même besoin d'un objet, on a besoin d'attendre quelque chose et de tenter d'y arriver, d'y accéder.
Oui, on a besoin d'attendre quelque chose, d'attendre un événement, mais au cours de cette attente, on ne doit pas rester les bras croisés, c'est-à-dire on doit continuer à agir. Alors, certains philosophes juifs, notamment en tout cas ceux du XXe siècle, ont dit que nous étions hors de l'histoire parce que être dans l'histoire, c'est justement céder à l'impatience. Et si nous sommes hors de l'histoire, alors nous vivons dans un temps qui est soustrait aux convulsions de l'événement. Et donc, nous vivons dans le temps du rite, le temps du rituel, c'est-à-dire le temps de l'application de la loi ou le temps de l'étude.
Dans votre livre, vous retracez les grandes thèses messianiques, à la fois à travers la tradition juive, mais aussi vous évoquez les dérives. Hein. Est-ce que vous pourriez dire quelles sont pour vous les grandes figures dans cette histoire du messianisme, histoire donc d'une attente anhistorique ?
Oui, les grandes figures, celles d'ailleurs qui ont mis l'accent dès le début sur le danger de la précipitation, c'est d'abord les sages du Talmud, ensuite, notamment en tout cas, Maïmonide, parce que Maïmonide, au lieu de placer l'idée messianique dans les principes fondamentaux de la loi qui ouvrent son grand code, il les met à la fin, dans les règles des rois et de leur guerre, c'est-à-dire comme s'il essayait d'enlever, d'extirper cette idée de sa gang qui est la gang de l'espérance ou la gang de la croyance et de l'intégrer dans un cadre qui est sociopolitique, le cadre justement du roi et celui qui organise la société politique.
Est-ce que vous diriez quand même qu'il y a eu un changement dans le messianisme politique précisément à partir du moment où les messies n'ont pas été simplement, comme ils l'ont été par exemple dans l'histoire juive, l'apparition de quelqu'un qui prétend être le messie, mais où véritablement toute des masses, en quelque sorte, puissent se porter vers la réalisation d'un idéal dans le temps contemporain.
Alors, dans le temps contemporain, nous avons eu une figure qui s'est déclarée messie, alors que dans la tradition juive, il n'y a pas de messie autoproclamé. C'est le rabbin de Lubavitch. Et ce rabbin de ce courant chassidique qui s'appelle les Lubavitch a été même, en tout cas après sa mort, ses disciples ont continué à dire que il va revenir, et donc il y a là une dérive qui est une dérive qui ressemble beaucoup, en tout cas, à la seconde venue du Christ, à la parousie.
Est-ce qu'il faut, malgré tout, indépendamment d'une foi en un sauveur, est-ce qu'il faut, malgré tout, comme vous l'écrivez, réinscrire des utopies? Et de quelle nature sont ces utopies?
L'utopie qu'il faudrait, ou les utopies qu'il faut réinscrire dans l'idée messianique, c'est que, au temps messianique, eh bien, le monde sera occupé, ou on vivra en tout cas dans l'abondance, et on pourra en tout cas instaurer une économie de partage. Ça, c'est une des grandes utopies de l'idée messianique. La seconde utopie de l'idée messianique, et déjà en tout cas Maïmonide l'avait souligné, c'est qu'on dégagera un temps de loisir qui permettra aux personnes de se mettre à l'étude, et justement les étudiants n'auront pas à avoir des difficultés économiques pour continuer à étudier.
David Bannon, le messianisme est fondé sur l'attente d'une délivrance, hein, c'est la promesse d'une délivrance, d'une rédemption même, qu'elle soit soudaine avec l'apparition d'un messie ou progressive. Mais malgré tout, que ce messianisme soit religieux ou qu'il soit politique, est-ce qu'il ne fonctionne pas sur le présupposé que l'homme est dans les fers et qu'il doit être libéré ou qu'il doit se libérer? Et n'est-ce pas justement un présupposé qu'on pourrait remettre en question?
Alors, est-ce que c'est l'homme qui est dans les fers? Je ne pense pas que ce soit comme ça que la tradition juive voit l'idée messianique. L'idée messianique est vue par la tradition juive comme faisant partie ou étant reliée à la création. Et la création est une création inachevée. Et donc l'homme a un travail à faire pour mener cette création à la rédemption, c'est-à-dire pour parachever la création. Et à ce moment-là, c'est le travail qu'il fait tout au long de l'histoire pour pouvoir arriver à cette rédemption.
Finalement, le messianisme n'a pas besoin de messie ?
Je pense qu'il n'a pas besoin de messie.
Merci David Bannon. Je rappelle le titre de votre livre, L'attente messianique, une infinie patience, paru au CERF. Vous pouvez retrouver et podcaster le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain bien sûr pour la suite de cette semaine consacrée au jeu du comédien et au jeu du théâtre. Demain, je recevrai Sabine Chaouche pour évoquer l'art du comédien à l'âge classique. Et donc on passera de Marlon Brando à Molière. Si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques, elles sont nombreuses aujourd'hui, mais également musicales concernant l'émission du jour et toutes celles de cette semaine. Vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et enfin, un grand merci à la comédienne Anne Brissier, dont la voix nous accompagne toute cette semaine.